Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport, spécial Ligue des Champions.
Le bon sang, deuxième poteau. Et la tête plongeante de Joao Neves.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport en direct des Champs-Élysées au cœur de cette journée exceptionnelle. C'est le grand soir du Paris Saint-Germain avec cette finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi évidemment 21h. On va vous faire vivre à fond cette journée historique. À partir de 18h30, nous serons en direct du Parc des Princes avec Nicolas Jamin, Eric Dimeco, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry. À partir de 20h, direction Munich avec Jean-Louis Tour, Jeannot Rességuier au commentaire, Jérôme Roten. Et puis à partir de 23h, retour sur les Champs-Élysées pour l'after autour de 23h évidemment, après la rencontre peut-être se terminera-t-elle un petit peu plus tard avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Emmanuel Petit, Florian Gautreau, Kevin Diaz, bref, une journée exceptionnelle avec la Dream Team RMC ce matin. Pascal Duprat, Jean-Michel Larquet, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud. On va parler d'Ousmane Dembélé dans quelques instants. 10h30, une interview exclusive avec Yannick Noah, supporter historique du Paris Saint-Germain. Et puis 11h, ce bras de fer DGG, un poil coquin, mais ça a été un débat toute la semaine. Est-ce un événement national ou un événement parisien, cette finale de la Ligue des Champions? On se posera la question. Allez, tout de suite, le facteur X s'appelle Dembélé.
RMC, le bras de fer GG.
Kvaratskhelia dans la surface de réparation. La frappe de Dembélé. Et le but. L'ouverture.
C'est de toute façon par lui que les plus grosses occasions, que les plus grosses différences dans le jeu du PSG se font. C'est lui le grand joueur du PSG.
C'est un joueur qui a fait une super saison avec une qualité énorme, un joueur qui peut gagner un match tout seul. Et en plus, cette année, elle a marqué beaucoup de buts.
Avec le bon long de Vitinha, Barcola qui va centrer. Dembélé.
Je sais pas, l'un des cadres, je pense. Je suis resté moi-même comme d'habitude à essayer d'encourager les joueurs, les plus jeunes. Le coach me dit de souvent montrer l'exemple aux plus jeunes et ce que j'essaye de faire.
8 buts, 4 passes décisives en 14 matchs de Ligue des Champions, 33 buts au total cette saison. Toute compétition confondue, Ousmane Dembélé est devenu au fil des semaines, au fil des mois, la star de ce nouveau Paris Saint-Germain, à tel point que cette finale face à l'Inter pourrait changer son destin individuel aussi avec la quête du Ballon d'Or. Vous le savez, Ousmane Dembélé est-il l'homme de la finale? Les GG ne sont évidemment pas d'accord. On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour Pascal Duprat, c'est oui, évidemment, Ousmane Dembélé est l'homme de la finale. Pour Olivier Giraud, ils ne sont pas d'accord ce matin, il faut s'y faire. C'est non, il est en compagnie de Sarah Pitkowski et Jean-Michel Larquet. Est-ce que tu penses qu'Ousmane Dembélé est l'homme de cette finale? Oui ou non, juste?
Oui, bien sûr, mais pas
okay. Oui, bien sûr. Sachez que c'est encore un 2 contre 2 dans cette émission et c'est encore un axe Duprat-Larquet face à Giraud et Pitkowski. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux à Munich, c'est Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Hier soir, tu as retrouvé Ousmane Dembélé. On a envie de savoir évidemment comment il se sent avant cette finale. Et puis, on sait que Luis Enrique a aussi eu des mots pour lui.
Oui, Ousmane Dembélé est très attendu, hein, mais il est serein avant cette finale. L'international français a déjà connu des grandes finales avec l'équipe de France. Il sait comment aborder ses rendez-vous.
Il y a eu une finale où, en 2018 où tout s'est très bien passé pour l'équipe de France. Une autre où j'ai été très mauvais. Mais je la prépare très bien, cette finale de Ligue des Champions. Depuis tout petit, je rêve de jouer ce genre de match-là. Je la prépare avec calme, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Là, il va falloir que je reste concentré sur le jeu, sur l'équipe, pas que sur moi.
Depuis le début de l'année, il s'est transformé en serial buteur, presque décisif à chaque fois, par la passe ou le but en Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale. Son entraîneur Luis Enrique est dithyrambique.
Ousmane a été l'un des meilleurs joueurs de cette saison, vous savez. Il fait des passes, il défend, il se bat, il marque. C'est un leader qui sait montrer l'exemple. Je suis content d'avoir pu lui donner cette assurance. Nous sommes une véritable équipe et nous allons essayer de gagner cette finale. To win tomorrow, all
together. Avec une telle saison, le nom de Dembélé revient souvent dans les conversations sur les prétendants au Ballon d'Or.
Comme je me répète, là, surtout ces dernières semaines, la chose la plus importante, surtout quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, c'est gagner cette Ligue des Champions. Là, je suis focalisé surtout sur l'équipe et pas sur le trophée individuel. Ça peut te travailler un peu l'esprit, mais j'enlève tout ça de ma tête.
le collectif avant tout, c'est l'une des forces de ce groupe, mais c'est une certitude, Dembélé peut se rapprocher un peu plus du Ballon d'Or ce soir.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins, tu restes avec nous pour ce débat et évidemment pour les dernières informations côté parisien avant cette grande finale de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé est-il l'homme de la finale? On vous a donc posé cette question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Il y a une majorité qui se dégage, c'est non à 60%, oui à 40%. Pascal, Jean-Michel, vous êtes derrière, donc vous commencez. Pascal, pourquoi oui?
Mais en fait, je crains qu'Olivier me dise que le Paris Saint-Germain a tellement de marge que ben Dembélé il a qu'à être nul quoi, il y a pas de problème et le Paris va gagner. Il manquerait plus aussi que Donnarumma mette les gants Mappa ce soir, puis de toute façon le PSG va gagner.
Non, mais ton avis de spécialiste.
Mon avis de spécialiste, c'est que pour confirmer un grand match comme celui-ci et une victoire en Ligue des Champions, il faut que le collectif certes du Paris Saint-Germain prenne le pas sur l'Inter, mais il faut la personne chargée de mettre les ballons au fond, et il me semble que Dembélé et la personne choisie pour aujourd'hui faire le taf, celui qui pourrait l'amener à brandir le Ballon d'Or. Okay,
ce qui est bien, c'est qu'on ne compte pas que sur Dembélé, lui pour la mettre au fond.
C'est le facteur X, au même titre que Donnarumma ce soir, que le Paris Saint-Germain enflamme les Champs-Élysées. D'accord, Dembélé, sans un Dembélé du grand soir, le Paris Saint-Germain aura plus de mal. Vous ne pouvez pas me l'enlever de l'esprit.
Ok, Olivier Giraud, la réponse.
En fait, Ousmane Dembélé, tout le monde aimerait qu'il soit bon, et il y a une raison pourquoi tout le monde le plébiscite, c'est son humilité. Dembélé, il a 28 ans. Avant cette saison au Paris Saint-Germain, personne ne savait quelle était sa personnalité, si c'était un mec sympa, si c'était un mec plein d'humilité. Et ce que Luis Enrique a fait avec ce type, il lui a dit finalement, en fait, c'est pas ta place ici là. Ta place, c'est un petit peu à gauche là, un petit peu au centre entre les deux. Et à 28 ans, il a découvert le joueur qu'il était. Et nous aussi, on a découvert le joueur qu'il était. Ce qui est important en fait, et que j'aime dans cette équipe du PSG, c'est que Dembélé est bon parce que les mecs à côté, ils aiment jouer avec lui. C'est-à-dire que quand tu as des passeurs et tu as un finisseur, il le dit très souvent Dembélé, je serais rien si les autres me donnaient pas de ballon. Et ben je peux t'assurer que quand tu regardes le PSG jouer, et l'un des meilleurs passeurs pour Dembélé, c'est Barcola. Ils se régalent les deux, c'est du régal. Et si c'est Barcola qui débute, c'est peut-être parce que Luis Enrique, il veut que ce jeu aille dans ce sens-là et peut-être en contre en début de partie. Mais Dembélé sans les autres n'est rien, et sans Dembélé les autres ne sont rien. Et donc c'est pour ça que sur Dembélé, je mets sur cette équipe offensive.
Exactement.
Qui a 50 000 solutions, et l'une des solutions préférées, évidemment, c'est de jouer sur Dembélé, qui est devenu
un
grand finisseur.
Mais non, c'est qu'on élargit, et je vais aller dans le sens d'Olivier. Quand Vitinha dit Dembélé, c'est un leader, pas l'exemple. Et il dit donc la façon dont il est à 100% dans les matchs nous donne envie de l'aider et de tout donner sur le terrain. C'est un petit peu contradictoire avec la dernière finale de Ligue des Champions où on comptait sur qui pour la mettre au fond. C'est Kylian Mbappé. Aujourd'hui, évidemment, Dembélé, on aimerait bien pour plein de raisons, parce qu'il y a cette course au Ballon d'Or d'ailleurs, quand tu regardes et tu tapes, est-ce que Dembélé va être l'homme de la finale ? Il s'est systématiquement associé à, en vue de la course pour le Ballon d'Or. Mais cette victoire, cette potentielle victoire, elle peut arriver par Dembélé, mais pas que, en fait.
J'ai répondu oui pour la victoire de la Ligue des Champions, sans me soucier du Ballon d'Or.
Mais quand tu regardes les derniers matchs de Ligue des
Champions, je suis convaincu que tu es obligé d'avoir un Dembélé des grands soirs pour gagner.
Oui, mais pas un Dembélé qui va nécessairement la mettre au fond, ça peut être un Dembélé passeur.
Un Dembélé qui fait la différence, comme il l'a toujours fait en Ligue des Champions, en tout cas souvent fait.
Mais il fera la différence, il fera pas la différence tout seul, il va la faire avec Barcola, il peut la faire avec Hakimi, on peut compter sur Fabien Ruiz. Je veux dire, la différence par rapport à cette dernière...
Oui, mais ça, t'es en train de me parler du Paris Saint-Germain nouveau, oui, parce que jusqu'alors, il jouait pas en équipe.
Et ben, donc
aujourd'hui,
c'est cette équipe.
Mais avec un joueur décisif, Dembélé.
Ok, Jean-Michel Larquet.
Oui, enfin, dire que dans un sport collectif, un acteur est dépendant de ses coéquipiers, ouais, je crois que c'est une lapalissade magnifique, mais ce qui est important sur Dembélé, c'est qu'il avait à peu près les mêmes coéquipiers l'an passé, probablement dans une situation différente, mais que malheureusement, il était devant le but. Probablement, il y avait un problème technique, il y avait aussi probablement un manque de confiance, un manque de lucidité, tout simplement, un manque de lucidité. Mais passer de 5-6 buts d'une saison à plus de 30 buts la saison après, c'est pas uniquement les coéquipiers, c'est que Dembélé a changé. lui aussi a changé, probablement beaucoup plus calme devant le but, beaucoup plus lucide, plus appliqué certainement, mais dans les finales...
Plus à sa place. Il y a bien quelqu'un qui lui a trouvé sa place, qu'il ne trouvait
mais
là, pas avant.
Oui, non, mais non, c'est pas...
Plus
mais
souvent c'est pas, face au but.
Non, mais
plus souvent
Sarah, le positionnement de Dembélé, c'est pas la question que nous pose JC.
Non.
Mais c'est pas non bon c'est pas mm-hmm. c'est pas la question. La question c'est ce garçon là peut-il doit-il être au top niveau pour que le Paris Saint-Germain ait plus de chances de gagner. Sarah, dans les grands matchs, alors parfois c'est pas le cas, il y a des exceptions, mais dans les grandes finales 2002, finale de la Coupe du monde, celui qui fait la différence, c'est El Fenomeno, c'est Ronaldo. 98 finale de la Coupe du monde, qu'est-ce qui fait la différence? Et pas forcément avec ses pieds mais avec sa tête, c'est Zinedine Zidane. Or c'est pas toujours le cas, mais que ce soit dans un sport individuel ou dans un sport collectif, eh ben l'histoire est souvent la même, ce sont ceux qui ont le plus de talent qui font la différence. Et si ce soir on a un grand Dembélé, évidemment que les chances du Paris Saint-Germain seront beaucoup plus importantes. C'est l'évidence même. Et je pense que Dembélé a totalement changé. Peut-être que ça le surprend lui-même. Peut-être qu'il est surpris lui-même de cette métamorphose. Parce que c'est vrai quand même que moi, quand je le vois devant le but aujourd'hui et que je me souviens la précipitation qui était la sienne l'an passé, il y a dû y avoir un travail sur lui-même, probablement du staff, de l'entraîneur, mais la progression est absolument phénoménale et cette progression, elle peut se traduire ce soir et elle doit se traduire ce soir par un bon match. Et si on a un bon Dembélé, un très bon Dembélé, crois-moi, le Paris Saint-Germain a encore davantage de chance. J'ai presque changé ma position du premier débat.
Ah, voilà, maintenant c'est pas favori, c'est ça. Bon, on sait pas, on refera le premier débat d'ailleurs, si vous voulez, les copains, il n'y a aucun problème. Fabrice Hawkins, en direct de Munich, qui veut intervenir sur Dembélé.
Oui, moi je suis d'accord avec Capitaine, parce que c'est vrai que Dembélé, depuis le début de la phase finale de cette Ligue des Champions, il y a eu 6 matchs, il a été décisif 5 fois, souvent par le but, avec des buts précieux hein, à Liverpool, à Arsenal, il fallait aller les mettre et c'est lui à chaque fois qui a fait la décision. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que même dans le groupe, c'est devenu un véritable leader, c'est-à-dire que quand on échange un peu avec les gens qui sont autour du groupe, même avec certains joueurs, ils vous expliquent que c'est vrai que quand il est sur le terrain, eh bien ils sont en confiance les autres, ils donnent cette confiance-là. Je crois que c'est Pascal qui parlait de sa personnalité, il a beaucoup d'humilité, il pousse les autres, il tire les autres aussi vers le haut, donc non seulement il y a les statistiques mais il y a aussi ce qu'il dégage, ce qu'il est sur le terrain, et ça c'est positif aussi pour ses partenaires.
Fabrice, on va devoir te libérer, t'as une énorme journée évidemment sur RMC. Juste la journée des Parisiens, là, comment elle va se découper, comment ça se passe actuellement, il est 10h22.
Ils se sont levés tranquillement tout à l'heure, hein, autour de 9h30-10h, petit déjeuner, après c'est assez libre, réveil musculaire, il y a les dernières consignes qui sont données par Luis Enrique qui parfois va échanger avec quelques joueurs, et après ce sera assez classique, hein, déjeuner, petite sieste, collation aux alentours de 18h30, pas avant, les joueurs auront la composition d'équipe entre 18h30 et 19h avec le discours de Luis Enrique, le vidéo projecteur également pour montrer les dernières consignes tactiques, et puis à 19h, donc ils vont prendre le bus pour aller à l'Allianz Arena.
Évidemment, tout ça vous allez suivre sur RMC avec ce cortège et ce départ du bus du Paris Saint-Germain pour Munich et pour cette grande finale de la Ligue des Champions. Merci Fabrice Hawkins, on te retrouve dans les différentes éditions sur RMC. Vous voulez réagir là sur ce débat, Ousmane Dembélé est-il l'homme de la finale? Il y avait Sarah, il y avait Olivier. Sarah.
Ouverture, effectivement, Dembélé. Il y en a un autre, hein. Il va falloir qu'il nous sauve, c'est Donnarumma. Et aussi, il est peut-être aussi l'homme providentiel. En tout cas, il sera forcément un homme important dans cette finale. Donc, de resituer ou de compter que sur Dembélé pour être l'homme du match, je pense que le gardien va être décisif. Il nous a déjà sauvés et il nous a montré qu'on pouvait enfin avoir confiance en lui. Donc, je pense que
il vous a surtout montré, pas à toi particulièrement, mais il a surtout montrer aux ingrats qui jugent du football et du sport professionnel qu'ils se trompent. Mais ils l'oublient bien trop souvent qu'ils se trompent, parce que Donnarumma, c'est un sacré gardien.
Ouais.
Olivier Giroud. Je suis d'accord avec ça. Dembélé, en fait, on a peut-être oublié un détail. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce joueur, et c'est peut-être le meilleur au monde, dans ce secteur-là. Le dernier que j'ai vu faire ça, c'était Cavani. C'est sa capacité de pressing. C'est-à-dire que tout le jeu du PSG repose là-dessus. Quand Dembélé n'est pas là, le pressing n'est pas aussi haut, il ne gêne pas autant. Et en fait, ce contre-pressing qu'a le PSG, dès qu'il perd le ballon, part d'Ousmane Dembélé. Je peux te dire que tous les gardiens du monde, quand ils passent en retrait, ils sont en panique et ils doivent aller très vite parce que Dembélé est le plus rapide dans ce secteur-là. Et que s'il doit avoir le ballon d'or, on discute souvent du ballon d'or, bah, c'est peut-être pour l'ensemble de son œuvre. Peut-être aussi sa capacité à mettre des buts, mais sa capacité, son volume de jeu défensif, eh ben aujourd'hui devrait être récompensé. Et si Dembélé est essentiel et si tous les joueurs le plébiscitent, c'est pour ce secteur du jeu là.
Lucas nous appelle au 32-16, supporter parisien. Salut Lucas.
Salut l'équipe. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. T'es chez toi, t'es en partance pour Munich. Comment ça se passe pour toi?
Non, je vais le regarder tranquillement avec mon petit dernier qui est fan de foot et on n'a pas pu se rendre à Munich parce que les billets hors de prix et de toute façon on n'a pas réussi à avoir de place. Donc on va le regarder tranquillement, lui et moi.
Oui, et puis tu participes au débat d'RMC comme ça, tranquillement le matin dans les grandes gueules du sport. Ousmane Dembélé est-il l'homme de la finale?
Je pense que oui, parce que déjà je vais parler terrain. Ça veut dire que sur le terrain, on voit bien que, bah, comme vient de le dire Pascal, c'est quelqu'un qui déclenche le pressing, qui est extrêmement fort. Et
c'était Olivier.
On sait, oui, Olivier, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, on sait que l'Inter Milan, mis à part la double confrontation contre l'Inter Milan, ils ont contre le Barça, ils ont encaissé très peu de buts. Ça veut dire que là, il va falloir être chirurgical. Et quand on voit la réussite de Dembélé, même le but contre Arsenal, c'est pas un but totalement maîtrisé, mais ça rentre. Et en fait, c'est le joueur. Après, si on parle de personnalité, c'est un joueur que je connais depuis assez longtemps. Je l'ai pas vu depuis un petit moment, mais je l'ai connu donc quand il rentrait à Rennes, etc. En termes de personnalité, il a énormément évolué, Ousmane Dembélé. Mais énormément évolué. C'était pas le leader. Ça a toujours été un comique, un marrant, qui fait des blagues, etc. Mais c'était pas le leader que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit même contre Manchester City quand il rentre. C'est comme Messi quand il rentre contre le Paris Saint-Germain, blessé FC Barcelone. Ça veut dire qu'il amène tout le monde avec lui. Ça veut dire qu'il ramène cette confiance dans le groupe qui fait que tout le monde se surpasse. Et pour moi, aujourd'hui, si on a un grand Dembélé, on n'est pas favori. C'est 50-50 pour moi, mais si on a un grand Dembélé, on passe à 51-49.
Et là, on devient favori, on l'a bien compris, pour faire un rappel à notre premier débat. Cher Lucas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on te souhaite merci une belle finale. Et merci de ta fidélité à RMC. On rappelle tout de même qu'Ousmane Dembélé, la dernière grande finale qu'il ait disputée, c'était une finale de Coupe du Monde et ça s'était pas forcément très bien passé pour lui. Heureusement Kylian Mbappé, qui était à l'époque là, le facteur X, et pour nous, lui avait laissé opérer la magie. Tout à l'heure, on a eu Julien Cazard qui nous racontait son périple. Il est parti tôt ce matin, à 4h du matin, en voiture pour rallier Munich. Il y a plus de 9 heures de route. Eh bien, sachez que nous sommes avec un autre supporter du PSG, personnalité de cette antenne. C'est Pierre Dorian qui a opté pour un autre voyage. Salut Pierre.
Salut à tous, comment ça va?
Bah écoute, on va très bien. J'imagine que tu es très heureux. Je crois que tu es arrivé à Munich. Donc tu es déjà dans cette ambiance. Raconte-nous déjà ton périple.
Oh, le périple, là, je vais te dire, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. J'étais en week-end au Pays Basque, donc je passe par Bilbao, Munich. Heureusement, il y a un vol direct. Mais j'étais à Saint-Jean-de-Luz, donc taxi, 3h du matin, 4h du matin. Je me suis levé à 3h. J'ai beaucoup dormi. La peur de se réveiller fait que j'ai passé une nuit quasiment blanche. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Faut pas que ce soit facile non plus de gagner les champions.
Hein. Ça coupe un petit peu avec Pierre Dorian. J'espère qu'on va le retrouver dans quelques instants. Imaginez, vous passez quasiment une nuit blanche et puis sur les coups de 2h30 du matin, vous vous endormez, vous vous réveillez pas et vous ratez l'avion. Là, je pense que Pierre Dorian, connaissant, eh bien, ce serait extrêmement compliqué. Est-ce que Pierre est toujours avec nous? Non, on le reprendra un petit peu plus tard. Voilà, pour nous donner son sentiment sur cette finale et puis aussi pour tâter un petit peu l'ambiance. Non, il est de retour, Pierre. Ça va. Oui, c'est vrai que tu aurais pu ne pas te réveiller, ça aurait été dramatique quand même.
Non, mais c'est vous connaissez ça, quand il y a un réveil tôt le matin avec une échéance importante, quand vous passez des âmes, je sais pas quoi, c'est comme ça, tu dors mal, t'as peur de pas te réveiller, ben là, écoute, je suis fracassé, mais on va passer une bonne journée. Et puis okay. Soir, on sera au stade et on espère que ça sera
là, on arrive, en arrivant à Munich, là, c'était quoi ta sensation?
Non, très soulagé d'être là, là, très heureux. Franchement, c'est que du bonheur. Je suis pas trop stressé pour le match. Je suis vraiment cool là. C'est, ça y est, le stress, on l'a évacué en demi-finale, ouais. En quart de finale. Maintenant, c'est que du bonheur. C'est, franchement, c'est du 50-50. Ça peut très bien passer là. Ça y est, là, on y est, quoi.
On y est, pas trop stressé pour l'instant, il est que 10h30, mais je te connais mon cher Pierrot, ça va monter au fur et à mesure de la journée, avant ce soir, ce coup d'envoi, donc à 21h. Merci beaucoup Pierrot d'avoir été avec nous, ce petit coucou en tout cas très sympa, et évidemment on te souhaite une magnifique journée, à l'écoute d'RMC, hein. Évidemment c'est dans ton contrat, tu perds pas les bonnes habitudes. 10h29, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud, et avec une interview exclusive. Yannick Noah dans quelques instants qui nous raconte et qui nous parle de son PSG. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport, spécial Ligue des Champions.
Attention, attention, attrapez le but. Enfin, la réduction de l'écart. Ousmane Dembélé.
Jean-Christophe Drouet.
10h34, de retour dans les Grandes Gueules du Sport en direct des Champs-Élysées. Nous sommes ensemble évidemment jusqu'à midi avec Pascal Dupraz, Jean-Michel Larquet, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud. Émission et journée exceptionnelle sur RMC. Ce matin en direct des Champs-Élysées à partir de 18h30 en direct du Parc des Princes. Lieu aussi de cette rencontre avec près de 50 000 spectateurs venus assister sur des écrans géants à cette rencontre. Nous serons là-bas pour l'émission à partir de 18h30 et puis à partir de 20h évidemment en direct de Munich. Et après la rencontre, de retour avec l'after, avec Gilbert Bribois, avec Daniel Riolo pour l'after sur les Champs-Élysées. On vous emmène jusqu'au bout de la nuit si le Paris Saint-Germain s'impose. Chers auditeurs, nous sommes en direct jusqu'à 6h du matin, et on sera là demain dans les Grandes Gueules, en direct des Champs-Élysées à partir de 9h. Bref, ça ne s'arrête jamais sur RMC, il faut bien le savoir. Tout de suite, on va passer à un invité exceptionnel. Alors mes GG, il y a 42 ans, vous le savez, il devenait le premier Français, le seul encore aujourd'hui à remporter Roland-Garros. Il y a 29 ans, il était le guide spirituel et mental du Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. À ce jour, le seul trophée européen des Parisiens aujourd'hui en 2025. Yannick Noah est toujours un supporter follement amoureux du Paris Saint-Germain. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques jours. Yannick Noah, c'est une exclusivité pour les Grandes Gueules du Sport. Avec Yannick Noah dans les Grandes Gueules du Sport. Bonjour Yannick, on est très heureux de t'accueillir dans cette émission. C'est évidemment un jour spécial. Le PSG, c'est un club que tu connais très bien, c'est ton club de cœur. Quel est ton regard sur cette équipe?
Bah, tu sais, tu crois pas si bien dire. En fait, mon père, quand il est arrivé en France, sa famille d'accueil, c'était à Saint-Germain-en-Laye. Mon père, il a commencé à jouer quand il est arrivé en France, à Saint-Germain-en-Laye. Il était au lycée Sainte-Barbe. Et je vais t'apprendre aussi quelque chose, c'est que son parrain, sa famille d'accueil, c'était un monsieur qui s'appelle Monsieur Patrel. Et Monsieur Patrel, c'est lui qui a fondé le PSG. Donc il y a vraiment un lien, hein, il y a vraiment un vrai lien. Ça c'est une première chose, parce que papa, avant d'aller à Sedan, il a joué à Saint-Germain. Voilà, comme tu sais, j'ai eu cette aventure en 96, qui était un moment inoubliable. Parce qu'au-delà du fait qu'on ait gagné cette Coupe des Coupes à l'époque, j'ai gardé des vrais amis, quoi. Donc c'est vraiment un souvenir inoubliable. Et puis voilà, le club qui grandit, qui a bougé. On a eu la chance de voir des joueurs. On n'aurait jamais pensé qu'on allait avoir de tels joueurs avec des équipes, des joueurs extraordinaires à travers le temps. Et puis voilà, on arrive là, à quelques jours d'une finale de la Champions League. C'est merveilleux.
Toi qui as vécu une finale, justement, comment tu appréhendes celle-ci et comment tu vois ce PSG en finale de la Ligue des Champions? Est-ce qu'elle t'impressionne, cette équipe?
Mais tu sais, forcément, à chaque fois que moi je regarde le PSG, d'abord en tant que fan, hein, premièrement, deux en tant que spectateur, et en troisième parce que j'ai eu un moment où il y a eu ce lien, où j'étais un petit peu dans le vestiaire, il y a eu très souvent des moments où je dis « merde, j'aimerais bien... » aller leur dire deux, trois trucs. Ah mince, j'ai l'impression qu'il se passe ça. Or là, depuis que le coach est arrivé, depuis, je sais pas, il y a un truc, c'est que son discours, il me parle. C'est-à-dire que, tu sais, en sport, tu peux gagner, tu peux perdre. C'est pas la question. C'est pour ça que c'est, sinon il suffirait de, voilà, mettre de l'argent et puis gagner. Non, c'est pas une science exacte. L'énergie qu'il a amené, ce qu'il a dit depuis le début, ce qu'il a créé, ça a du sens. En tout cas, de l'extérieur, moi, j'ai du sens. Donc, moi, aujourd'hui, je dis, bon, il y a la finale qui arrive, j'ai tellement envie qu'on gagne parce que j'ai tellement envie de voir enfin des gens heureux, quoi. Parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui seront heureux. On a besoin de ça, quoi. On a besoin de gagner une Champions League, tu vois. Moi, j'étais à Munich à l'époque parce que j'avais des amis à Marseille à l'époque. Hein. Et j'étais allé avec mon fils Joachim qui était môme, mais bon, j'étais copain avec Basile et je suis toujours copain avec Basile du reste. Et j'étais allé à Munich, c'est bon, mais je suis parisien, tu vois. Et ça serait vraiment top qu'on gagne cette Champions League. On est une équipe jeune, si c'est cette année, tant mieux, mais je pense qu'à un moment, ça résonne tellement, tout ça me paraît tellement logique, la façon dont ils jouent, le fait que l'équipe soit jeune. Il y a quelque chose qui tient la route. Voilà.
Ta réponse m'amène à deux questions. La première, si on avait fait appel à toi pour cette campagne européenne, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce vestiaire? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui transmettre à ce vestiaire avant une finale, toi qui l'as connu évidemment avec le PSG en 96? S'il y avait des mots que tu aimerais faire passer.
Mais c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai répondu à ta question tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me suis vraiment dit, putain, je lis entre les lignes, quand je vois les interviews des uns des autres, je lis entre les lignes, c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que là, maintenant, on est en place, en fait. J'ai l'impression qu'on est en place, donc j'aurais pas grand chose à dire. J'ai vu récemment, il y avait un espèce de débat sur qu'est-ce qu'on fait après qu'on gagne. Est-ce qu'on va sur les champs ou pas? Je dis, attendez les gars, on n'a rien à foutre de ce qu'on fait après. De toute façon, même si on doit le faire dans le bois de Boulogne ou aller n'importe où, on va la faire la fête n'importe où. C'est pas la question de faire un truc symbolique ou pas. C'est pas le débat. Par contre, on reste sur notre objectif, qui est de gagner. Mais ça, si tu veux, je suis certain que le staff, le coach, il leur parle comme ça. Je vois comment ils jouent les matchs de prépa. Enfin, oui, on appelle, il va y avoir la finale de la Coupe. Il y a eu certains matchs de championnat où tu vois très bien qu'il y a une gestion, tu vois très bien qu'il y a une compréhension. On a quand même un coach qui a été joueur, qui a gagné la Champions League, qui a été coach, qui a gagné la Champions League. Enfin, bref, c'est un gars qui touche sa bille. Et donc, je suis confiant parce que je pense qu'on va... On met tous les atouts de notre côté et après c'est place à la folie du match.
Est-ce que tu vois des similitudes entre 96, même si tu n'es pas à l'intérieur du club aujourd'hui, mais est-ce que tu vois des similitudes entre ce qui s'est passé, ton aventure en 96 et l'équipe de 96 et cette équipe d'aujourd'hui? Est-ce que tu, il y a des connexions parallèles ou pas du tout?
Je pense pas. C'est un autre temps. Hein. 96, ça commence à dater. Tu vois, ça va faire presque 30 ans. Tu vois, ça date. C'est une autre époque, voilà, il y a toujours dans ces moments-là un truc qui est pas juste parisien, il y a toujours cette espèce de nuage, de doute, de critiquer, d'aller chercher la petite, mais voilà, ça fait partie du truc. Dans le meilleur des mondes, j'aurais voulu que toute la France soit derrière le PSG, quoi, tu vois, ça me paraît logique. Mais bon, voilà, je pense que pour gagner, il faut être optimiste. Et si on n'est pas optimiste, on mérite pas de gagner. Parce qu'en fait, quand on va gagner, on va pas le savourer comme il se doit.
Toi qui es un éternel optimiste, justement, après cette finale, si le PSG la gagne, est-ce que justement cette équipe peut être aimée de tous les Français? Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, on peut y croire? Ou non, ça reste le PSG, ça reste les Parisiens?
Moi, je peux pas te dire, mais je peux pas répondre pour les gens. Mais moi, elle est sympa, cette équipe. Ce sont des mômes, ils sont sympas. Tu vois que c'est un groupe. Tu vois que c'est une équipe. Tu sens de l'extérieur, hein, je suis pas dans le vestiaire, qu'il y a une amitié. Nous, on fait du sport pour ça. Hein, c'est pour la camaraderie, les amitiés, les souvenirs en commun. Moi, des fois, t'as des mecs au détour d'une phrase, disent ouais, on peut être dans un vestiaire, mais se détester. Mais moi, j'y crois pas. Moi, en tout cas, bon, tu gagnes, mais ça n'a pas une dimension. Voilà, tu gagnes et puis tu rentres chez toi et puis qu'est-ce que tu. Voilà, il se passe rien. J'ai l'impression qu'il y a une énergie dans cette équipe qui est visible, qui est que voilà, c'est un vrai groupe, ils sont 30 et ils vivent bien ensemble. Il y a un truc positif. Tu vois, quand un mec il marque un but de l'autre côté là, qui traverse le terrain pour venir embrasser tous les remplaçants, il y a des signes comme ça. Enfin, moi, mon décodeur, il est comme ça. Moi, ça me donne la chair de poule. Et pour peu qu'à la fin du match, on passe pas tout de suite à la pub, parce que je pense que c'est vraiment, on joue pour ces moments. Tu vois, une fois que là, le coup de sifflet final, tu vois, c'est terminé, t'as gagné. C'est ce quart d'heure là, il est, c'est pour ce moment qu'on travaille pendant des années. Et c'est des fois la pub qui arrive et voilà, ça me saoule, je deviens fou devant ma télé. Et putain, mais laissez, c'est ça, c'est vraiment les mecs qui, tu vois, cette camaraderie, ce bonheur partagé, tu vois, et puis le public, tu vois, je vois comment Luis Enrique inclut le public dans cette aventure. Je trouve ça tellement juste, tellement intelligent, mais pas stratégique, mais juste. Je trouve que c'est comme ça. Tu joues pour les gens. Moi, je connais pas un mec qui marque un but qui garde ses pieds, quoi. Tu regardes les gens. Les gens, tu les connais pas, tu leur donnes du bonheur, quoi. C'est fabuleux. Donc, au début, quand je te disais, moi, j'aimerais tellement qu'on mérite ce bonheur-là, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'énergie pour qu'on ait ce truc à Paris, et je pense qu'ils méritent de vivre ce truc-là.
Yannick Noah, donc, était notre invité exceptionnel, évidemment, lui qui est supporter du Paris Saint-Germain. D'autres surprises dans cette émission. Restez bien avec nous, avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Duprat, Olivier Giraud, Sarah Pitkowski. On poursuit les grandes gueules du sport en direct des Champs-Élysées dans quelques instants. On s'en fout pas. Je vous donne des informations, à vous de me dire si ça vous intéresse. On parlera notamment de la sécurité ici à Paris ou encore de Roland Garros. Comment Roland Garros va vivre cette finale de la Ligue des Champions? Allez, à tout de suite sur RMC.
Et c'est terminé!
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport, spécial Ligue des Champions.
Et le but pour le Paris Saint-Germain!
Jean-Christophe Drouet.
10h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec Jean-Michel Larquet, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud, Pascal Duprat, des grandes gueules du sport exceptionnelles en direct des Champs-Élysées, le lieu de la fête ce soir, demain on l'espère pour les Parisiens avec la grande parade. Bref, en tout cas une journée absolument fantastique à vivre sur notre antenne. Nous sommes partout, à Paris, à Munich, à Milan. On prendra des nouvelles d'ailleurs à Milan dans une dizaine de minutes à partir de 11h. On vous donnera toutes les dernières informations sur le groupe parisien, sur la composition d'équipe. La Dream Team est évidemment mobilisé pour cette journée historique pour le Paris Saint-Germain. Allez, tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
On ne change pas les bonnes habitudes, évidemment, mais GG, je préviens Jean-Michel Larquet qui ne fait pas toutes les semaines cette émission. On s'en fout pas. Je vous donne des informations. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, eh bien, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le dispositif de sécurité autour de cette finale de la Ligue des Champions. On s'en fout pas. Olivier Giraud.
On s'en fout pas.
Ok.
On s'en fout pas.
Ok. Jean-Michel Larquet.
Je m'en fous.
Attention, quand on dit je m'en fous, on peut pas parler, hein, évidemment, même si on a beaucoup de choses à dire finalement. Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas.
Ok, à tout événement exceptionnel, vous le savez, dispositif de sécurité exceptionnel. Ces dernières heures, le préfet de police de Paris a détaillé l'important dispositif donc de sécurité pour cette finale de la Ligue des Champions. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Les autorités annoncent, je cite, un dispositif massif.
Oui, 5400 policiers et gendarmes mobilisés dans Paris aujourd'hui. C'est trois fois plus que pour la demi-finale face à Arsenal. Et pour vous donner un autre exemple, les manifestations du 1er mai à Paris mobilisent autour de 2000 forces de l'ordre. C'est donc un dispositif sans précédent qui est mis en place ce soir. Les policiers seront très visibles dans le centre de Paris, notamment sur l'avenue des Champs-Élysées où vous êtes actuellement, qui sera totalement neutralisé à partir de 19h ce soir. Les autorités s'attendent à une soirée particulièrement agitée, notamment en cas de victoire du PSG. Il y aura aussi un élément important dans ce dispositif massif, c'est qu'il faut comprendre que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, n'a pas envie de revivre le fiasco de 2022 avec la finale de la Ligue des Champions au Stade de France qui avait coûté très cher politiquement à Gérald Darmanin. Et si victoire du PSG il y a, il faudra remettre ça demain. Une grande parade est prévue à partir de 17h ce dimanche avec une remontée des Champs-Élysées par les joueurs du PSG. 110 000 personnes pourront assister à cette fête avant normalement un passage par l'Élysée et une grande soirée festive au Parc des Princes avec les abonnés du club. Mais si ça se passe mal ce soir dans les rues de Paris, le préfet de police se réserve le droit de tout annuler demain en cas de débordement ce soir.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces précisions. Évidemment, on suit ce genre de dossier avec une extrême vigilance. J'ajoute aussi que nous sommes ici en direct des Champs-Élysées. Olivier, on a déjà vu des boutiques qui se barricadent justement pour éviter notamment les pillages.
Ouais, de manière automatique. D'ailleurs, on va revenir, c'est assez symptomatique cette question, puisqu'on va y revenir après. Est-ce que c'est un événement parisien ou national? Des dispositifs comme ceux-là sont mis pour des grands événements nationaux, voire internationaux, comme la finale de Ligue des Champions, mais ça n'a rien à voir parce qu'elle était ici. Donc évidemment, on marche un petit peu dans l'inconnu. parce que de ce qui a été dit, il va y avoir beaucoup de monde qui va venir sur Paris, de partout. C'est un événement exceptionnel qu'on ne connaît pas. Et donc, évidemment, il faudra faire preuve d'énormément de vigilance pour les gens qui vont venir faire la fête et puis essayer aussi de raisonner et de montrer une belle image. C'est ce qu'on peut dire à tous ceux qui veulent venir à Paris et qui... Des fois, on a cette habitude de fêter de manière un petit peu trop véhémente, et ben d'essayer de montrer une belle image du football et des autres.
Un peu trop véhément.
Oui, mais tu sais, ça peut aussi bien se passer. Je vais te dire, pendant les Jeux Olympiques, ça s'est très très bien passé, et c'était pas qu'un public des Jeux Olympiques, c'était le public entier parisien, et que ça s'est bien passé. Et je pense que ça peut bien se passer également.
Moi, j'ai des doutes.
J'en ai aussi.
J'ai des doutes. Un supporter du PSG ou une famille supportrice du PSG, le dernier endroit où tu vas avoir envie de fêter ce soir, c'est le... Tu viendrais pas, t'aurais des jeunes enfants ou tu viendras pas avec ta femme te dire bah tiens, je vais venir communier le titre du PSG sur les Champs-Élysées. Je vous rappelle qu'en 98, en 98 ou en 2000, on se posait pas la question, on est tous sortis, on s'est dit allez, on va fêter ça sur les Champs. Ça va pas être possible. Alors, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ce sera pas bon enfant, on est bien d'accord. Depuis quand?
Alors, j'en sais rien. T'as vu
comment ils... Enfin, c'est plus des barricades, c'est plus des planches de bois qu'on met devant les vitrines, là. On met des structures métalliques. Moi, ça me choque à un point de se dire que le dernier endroit où j'aurais envie de fêter ça, c'est sur les Champs-Élysées.
Qu'on soit très clair, c'est que les barrières métalliques, elles viennent pas du foot. Elles viennent des gilets jaunes, s'il te plaît, Sarah. Ça veut dire que les manifestations qui ont cassé le plus de choses dans Paris, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est les manifestations des gilets jaunes.
C'est pas à cause du foot.
Quand tu dis, je vois des barricades, le réflexe de mettre des barricades ne vient pas du foot. Sur les Champs-Élysées.
Je reprends la main, évidemment, on traitera. Jean-Michel Larquet a très envie de parler, malheureusement, tu as dit je m'en fous, et c'est la règle horrible de cette émission.
Ce sera le bordel, alors.
Merci pour ton optimisme. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Roland Garros qui se prépare aussi à la finale de la Ligue des Champions. On s'en fout pas, Sarah Pitkowski?
Non, on s'en fout pas, parce que on est à quelques mètres du PSG où il y aura aussi la retransmission.
Jean-Michel Larquet?
Je m'en fous pas.
Ok, Pascal Duprat?
Je vais dire je m'en fous, parce que tu vas pas me donner la parole.
Olivier Giraud? Calimero?
On va laisser à Jean-Michel et Sarah.
Et Sarah.
On s'en fout.
Alors, au coup d'envoi de PSG Inter Milan, évidemment, le tournoi de Roland-Garros va continuer de vivre. Hein. Comment va se dérouler la Night Session avec notamment Novak Djokovic? On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux Porte d'Auteuil, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour JC, bonjour les GG.
Là aussi, il y a un dispositif, peut-être pas que de sécurité, mais il y a aussi des choses mises en place autour de cette finale de la Ligue des Champions.
Et de la vigilance, et Sarah, j'ai même calculé la distance entre le fond du cours Simone Mathieu et la pelouse du Parc des Princes, c'est 420 mètres à vol d'oiseau, c'est pour vous illustrer la proximité des deux sites. Alors rien de spécial ne sera proposé à l'intérieur de Roland-Garros, car il y aura un match, c'est Novak Djokovic qui a été programmé en soirée à partir de 20h15, il a d'ailleurs dit qu'il soutiendrait le PSG, pas d'écran géant donc, il faut aussi penser aux transports qui seront renforcés avec le métro. 40 000 spectateurs au parc, 15 000 sur le central. La préfecture de police a demandé des aménagements comme la fermeture des parkings à vélo dès 20h. Et c'est vrai que c'était aussi gérer ces deux événements côte à côte, une situation inhabituelle pour la directrice du tournoi de Roland-Garros, Amélie Mauresmo.
On va pas interdire aux gens, hein, clairement, de regarder leur téléphone, de suivre le score ou de savoir quand il y a un but ou pas. Donc on va voir comment ça peut, mais a priori, sur le papier, il va pas y avoir 10 buts, 20 buts, 30 buts. Donc si ça perturbe une ou deux fois, on vivra avec.
Un petit souvenir peut-être des JO où les exploits de Léon Marchand avaient fait lever les foules, y compris ici à Roland-Garros.
Rapidement, Sarah et Jean-Michel. Jean-Michel, tiens, sur ça.
Oui, ben tout simplement parce que oui, il y a une densité dans ce secteur de la Porte d'Auteuil, puisque entre le Parc des Princes et Roland Garros, il y a aussi le stade Jean Bouin, hein, donc il y a toujours des manifestations en même temps. Et puis c'est bien à un moment donné d'associer la petite balle à la balle un petit peu plus grosse, en sachant quand même que d'une manière générale, Sarah, les joueurs de tennis sont d'excellents footballeurs et qu'ils aiment eux le football. Yannick était un très bon footballeur. La dernière fois que j'ai joué avec Yannick, nous ne l'avions fait qu'une mi-temps. C'était du côté de Chalon ou un truc comme ça. Et on était rentré après la mi-temps. Il avait marqué un but. De Chalon jusqu'à Paris, il ne m'avait parlé que de son but. Il ne m'avait pas parlé une seule fois de tennis. Yannick était un excellent footballeur. Patrick Proisier, Eric De Blicquer et Gilles Moreton, l'actuel président de la fédération, étaient aussi. Mais ils sont tous fans de football. Et d'ailleurs, je crois, Sarah, que durant l'hiver, en tout cas du côté de Paris, il y avait beaucoup de clubs de tennis qui avaient des petites équipes de football et qui faisaient pas un championnat, mais
si il y a un championnat effectivement des joueurs de tennis. Des
Sarah, il y aura du monde ce soir ou pas sur le court central?
Ah ben bien sûr qu'il y aura du monde. Oui, non, mais il y aura du monde. Après, ce qui va être un peu sympathique, c'est que je pense que quand il y aura un but, je le souhaite, du PSG, il va se passer quelque chose dans le stade. Il va y avoir un brouhaha et je serais pas étonnée, parce qu'on connaît le côté un peu fantasme de Djokovic, que s'il mène largement et qu'il entend le but, il va nous faire quelque chose sur le court. Je ne serais pas étonné.
Ok, merci beaucoup Jean-Michel Larquet d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir été dans les grandes gueules du sport. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Sachez que si le PSG gagne, Jean-Michel Larquet saute dans un avion demain matin et il sera en direct avec nous dans les grandes gueules du sport.
Non, je saute pas dans l'avion. Hein, non,
tu sautes pas de l'avion, mais tu sautes dans l'avion. Ok, fais très attention. C'est vrai que merci en tout cas d'avoir été avec nous, cher Jean-Michel. Et ta cravate. Ça faut réécouter en podcast pour comprendre la vanne évidemment. Et on te retrouve demain. Merci Arnaud Valadon. On te retrouve tout au long du week-end autour de Roland Garros. Et puis sachez que la conférence de presse d'Arthur Fils est toujours en cours. Il a déclaré forfait car il souffre d'une fracture de stress au niveau du dos, vous l'entendrez dans quelques instants dans les grandes gueules du sport.
Fracture de fatigue.
J'ai dit quoi ?
Fracture de stress.
Oui, de fracture de stress et de fatigue.
Oui.
Les deux. On va vérifier tout ça. On va demander à l'infirmière Sarah Pitkowski. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Gilbert Bribois viendra évidemment aussi dans cette émission pour ce débat insoutenable. Est-ce un événement national ou un événement parisien ? A tout de suite pour les grandes gueules du sport en direct des Champs-Élysées.
C'est d'aller chercher un joueur, la tête de Marquinhos, attention, le ballon récupéré par Asensio, la frappe, oh, l'arrêt des deux genoux à l'avant de la part de Donnarumma.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.